Ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de La plus secrète mémoire des hommes, le dernier livre de Mohamed Bougarsar, paru en 2021 chez Philippe Ray et parallèlement chez l'éditeur africain Jim San. À propos de Mohamed Bougarsar, je me souviens d'une belle rencontre avec ce jeune auteur en mars 2020, lorsque l'association Littéra 05 l'avait invité autour de son troisième roman. De purs hommes, c'était une histoire inspirée d'un fait divers homophobe dans le Sénégal contemporain. Et à l'époque, nous l'avions retenu dans la sélection de livres nomades Terre d'Afrique. Alors, quelle satisfaction ce fut pour Littéra 05, début novembre, lorsque Mohamed Bougarsar, alors qu'il n'était pas le plus célèbre de la sélection, a reçu le prix Goncourt pour « La plus secrète mémoire des hommes ». Et je précise qu'il était également parmi les finalistes d'autres prix, à savoir le Femina, le Renaudot et, je crois, le Grand Prix de l'Académie française. Nous avons là un prix Goncourt qui fait honneur à la littérature, car c'est une lecture stimulante, un livre dense, ambitieux, plutôt cérébral, mais néanmoins captivant par son énergie narrative. Un roman, par ailleurs, empreint de sensualité et non dénué d'humour, je dois dire. J'aimerais d'abord vous lire un premier passage. Nous sommes au début du livre. 12 juillet. Ce matin, pointage rituel au consulat sénégalais à la direction des bourses universitaires pour renouveler la mienne. Elle sera valable jusqu'à juillet prochain. Au-delà de cette échéance, il faudra que je me démerde. Trouver un vrai travail, ou reprendre et finir ma thèse, ou vivre dans la rue, ou devenir l'amant d'une riche rombière qui aime les mystères de l'Afrique et m'entretiendra en leur nom, ou écrire un livre de régression personnelle déguisé en manuel de développement personnel, ou crever. D'ici là, vive la charitable patrie qui pourvoit aux nécessités de ma survie. Je suis ensuite passée à la bibliothèque pour jeter un œil aux parutions remarquables de l'an 1938. Elles m'ont révélé une promotion littéraire, poétique et philosophique française de premier plan. Bernanos, Alain, Sartre, Nizan, Gracq, Giono, Aimé, Troya, F. Curie, Saint-Exupéry, Caillois, Valéry, rien de moi. Mais pas l'ombre d'un TC Eliman, ni d'un labyrinthe de l'inhumain. Rentré chez moi, j'ai trouvé Stanislas et n'ai pu m'empêcher de lui en reparler. Il m'a alors demandé ce que racontait le livre. Je ne m'attendais pas à cette question, qu'au reste, je hais. J'ai réfléchi un moment, puis, comme il fallait bien que je réponde, j'ai dit quelque chose de grandiloquent, des phrases saturées de mots à majuscules, quelque chose comme « C'est l'histoire d'un homme, un roi sanguinaire. Ce roi cherche le pouvoir et est prêt à commettre le mal absolu pour l'obtenir, mais il découvre que même les voies du mal absolu le ramènent à l'humanité. » Le traducteur, après ma lyrique péroraison, m'a regardé quelques secondes, puis a dit « Ça ne veut rien dire. Je vais te donner un conseil. N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Ou, si tu le fais, voici la seule réponse possible. Rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien. Et pourtant, tout y est. Ne retombe plus jamais dans le piège de vouloir dire de quoi parle un livre dont tu sens qu'il est grand. » Ce piège est celui que l'opinion te tend. Les gens veulent qu'un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité, Diégane, c'est que seul un livre médiocre ou mauvais ou banal parle de quelque chose. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose. Mais ce seulement est déjà tout. Et ce quelque chose aussi est déjà tout. Voilà. Alors, ce livre, on peut tout de même se risquer à en dire deux ou trois choses. Au départ, il y a la rencontre entre le narrateur et un livre, justement. Nous sommes en juillet 2018. Le narrateur est Diegan Faye, un jeune écrivain sénégalais qui poursuit ses études supérieures à Paris. Il met la main sur un livre dont il a entendu parler, mais qui demeurait introuvable. Il s'agit du « Labyrinthe de l'inhumain » du Sénégalais Tessé Elimane. Ce livre eut un grand succès dans le Paris de l'avant-guerre lors de sa publication en 1938. Une œuvre majeure, en ce sens qu'elle bouleverse ceux qui la lisent. Mais un auteur évanoui, disparu, dont il ne reste plus de traces. Aucun autre écrit, pas la moindre photographie. Un mystère. Un auteur effacé de la scène littéraire après qu'il a été accusé de plagiat. Le narrateur est subjugué par la lecture de ce livre. Et ici, il faut préciser que Mohamed Bougarsar dédie son livre « La plus secrète mémoire des hommes » à un écrivain malien, Yambo Wologem, qui reçut le prix Renaudot en son temps, en 1938, auteur qui eut à subir lui aussi les attaques du milieu littéraire pour son livre intitulé « Le devoir de violence ». On lit « La plus secrète mémoire des hommes » comme une enquête littéraire, presque comme un roman policier, puisque Diegan, le narrateur, est hanté par ce fameux auteur sénégalais. Qui était-il? D'où venait-il? Qu'est-il devenu après son succès passager et sa disgrâce? Diegan veut, dès lors, reconstituer la trajectoire de vie de Tessé Elimane. En consultant les archives de la presse, il met la main sur un travail journalistique de 1948, 10 ans après la parution du fameux roman, donc. Travail journalistique intitulé « Qui était vraiment le Rimbaud nègre, Odyssée d'un fantôme ?» C'est le point de départ à partir duquel Diegan Faye va retracer l'Odyssée de Tessé Elimane, l'écrivain fantôme, et il va essayer de répondre à cette énigme qui est pour lui l'énigme de son silence. Cette reconstitution de l'Odyssée d'un homme, la plus secrète mémoire des hommes, nous transporte en différents lieux. Nous sommes à Paris, à Amsterdam, au Sénégal, en Argentine, et en différentes époques également, car Diegan, le narrateur, découvre le labyrinthe de l'inhumain en 2018, mais ensuite, le récit nous ramène au Paris de l'entre-deux-guerres et de la guerre, au Sénégal, au temps de la colonisation. Et puis, il y a aussi dans le livre, bien présent, l'écho de la Shoah. Le roman prend des formes variées. C'est un journal, et puis nous avons des conversations, des confessions intimes. On trouve des extraits d'articles de presse, des extraits d'enquêtes, des témoignages, des échanges de textos, etc. Les personnages sont nombreux. Il y a ceux qui entourent le narrateur et, par le biais de témoignages, ceux qui ont, dans le passé, croisé le mystérieux auteur. Ce qui caractérise ces personnages, c'est que ce sont toutes des personnes engagées dans leur choix, dans leur vie. Aïda, l'élu de cœur de Diegan, est une jeune femme libre et militante. Marem Siga D, qui a procuré le livre à Diegan, est une femme mûre que l'on peut voir comme une initiatrice non seulement à la littérature, car elle est une écrivaine sénégalaise reconnue, mais initiatrice également à l'amour, à la vie. Nous rencontrons aussi les éditeurs de Tessé Elimane de 1938, Thérèse Jacob et Charles Ellenstein, qui eux aussi sont déterminés dans leur soutien au jeune écrivain sénégalais, l'écrivain inconnu. Et beaucoup de ces personnages du roman sont écrivains, tels le cercle d'amis qui entoure Diegan à Paris. Il y a aussi une poétesse haïtienne, et puis aussi des conteurs dans la tradition africaine, tels Ousseynou, celui qui a élevé Eliman. Par leurs récits, tous ces personnages entretiennent la mémoire de Tessé Eliman, d'où peut-être le titre du roman « La plus secrète mémoire des hommes ». La trame narrative est une mise en abîme. En effet, plusieurs voix s'enchaînent, se relaient, parfois de façon surprenante, sans transition évidente, quand on passe d'un narrateur à l'autre, ce qui peut parfois nous déstabiliser en tant que lecteur. À son tour, chaque voix relate ce qu'elle sait de Tessé Eliman. Les récits sont enchâssés. Ils s'emboîtent, tels des récits gigognes. Et ce qui se dessine page après page, c'est le portrait à contre-jour d'un Tessé Eliman mystérieux dont nous est dévoilée peu à peu la profonde humanité au-delà de l'expérience chaotique. Voici une première image que nous avons dans le roman, une première image de Tessé Eliman. Son éditrice, Thérèse Jacob, relate sa première rencontre avec lui. Vous vous souvenez d'un mensonge. Ce n'est pas dans un bar par hasard que nous l'avons rencontré, Charles et moi. La première fois que nous l'avons vu, c'était dans un grand lycée parisien. Il avait 20 ans, venait d'arriver de son pays natal et allait commencer son hippocagne. Comme à chaque début d'année, quelques anciens élèves de l'établissement qui avaient intégré Normale supérieure venaient encourager les nouveaux venus. Charles et moi faisions partie des anciens choisis cette année-là. Nous venions alors de nous lancer dans l'édition. Eliman était naturellement l'une des attractions de la nouvelle promotion. On voyait de plus en plus d'étudiants noirs à Paris. Mais le phénomène restait rare dans notre lycée. Tout le monde avait envie de l'entendre parler, de savoir ce qu'il valait, de se faire une idée de lui ou de voir s'il correspondait à celle qu'on s'en était déjà faite. Les nouveaux élèves furent invités à se présenter. Ils prirent la parole un à un, mais celui que tout le monde attendait était Eliman. Quand son tour vint, il parla d'une voix limpide et claire dans un silence sépulcral et dit « Je m'appelle Eliman, je viens du Sénégal, je veux écrire ». Ces trois phrases résonnèrent comme des coups de pistolet dans le préau du lycée. Le silence se poursuivit quelques secondes, puis une rumeur monta des rangs des élèves, des professeurs, des anciens élèves. C'était une rumeur indéchiffrable, mêlée. Certains semblaient stupéfaits qu'il parlât notre langue. D'autres répétaient son nom comme un talisman ou une incantation. Eliman, Eliman. Quelques-uns se demandaient où se trouvait ou ce qu'était le Sénégal. Mais l'essentiel était dans sa dernière phrase « Je veux écrire ». Il y avait dans ces mots-là quelque chose de pur. Ils auraient couvert de ridicule et de prétention tout jeune Godelureau à peine sorti de l'adolescence et qui se rêve déjà Stendhal ou Flaubert. Mais quand Eliman avait dit ces mots, j'avais senti au fond de moi que ce n'était pas seulement une vanité. Il allait falloir qu'il le prouve, qu'il tienne bon, qu'il résiste aux moqueries qui n'allaient pas tarder à arriver. Un nègre, une créature à peine plus élevée qu'un primate sur l'échelle de la civilisation, qui voulait écrire. Mais dans sa voix et son regard, il y avait un feu. Charles et moi l'avions senti. Qui était-il, ce jeune Sénégalais? Sigadé se demande, j'ouvre les guillemets. Qui était-il? Un écrivain absolu? Un plagiaire honteux? Un mystificateur génial? Un assassin mystique, un dévoreur d'âmes. Un nomade éternel. Un libertin distingué. Un enfant qui cherchait son père. Un simple exilé, malheureux, qui a perdu ses repères et s'est perdu. Qu'importe, au fond. La poétesse haïtienne, un autre personnage du roman, qu'il a bien connu, parle de lui en ces termes. C'était un astre noir. Et elle ajoute, j'ouvre les guillemets, il exerçait sans en avoir l'air un charme puissant, un charme pas seulement physique, mais spirituel, je dirais même mental, si ça avait quelque sens. Voilà comment on parle d'Eliman dans le roman. Un astre noir. On évoque le charme d'Eliman, l'attraction qu'il exerce sur ceux qu'il rencontre, son aura mystérieuse. Qu'est-ce que c'est tout ça? L'héritage d'un pouvoir ancestral? Magie noire? Ce que nous, lecteurs, apprenons peu à peu, c'est que T.C. Eliman avait un but secret et une destination finale. Pourquoi Eliman a-t-il fui la France pour l'Amérique latine? Au-delà de l'enquête sur Eliman, l'auteur mystérieux, la profondeur du livre, la profondeur de la plus secrète mémoire des hommes, réside dans une autre quête, celle de la littérature. Car, en effet, le roman sonde l'attraction qu'exerce la littérature, son pouvoir, mais aussi ses impasses. Un ami de Diégane, Musimboa, lui dit à un certain moment « J'ai compris qu'en réalité, derrière la suite du livre, c'est la littérature même que tu crois chercher. Mais chercher la littérature, c'est poursuivre une illusion. Chercher la littérature, c'est chercher la merde. » Et on comprend, bien sûr, que Diégane, l'aspirant écrivain, est sur les traces de sa propre vocation littéraire. Où l'on voit que la plus secrète histoire des hommes relève aussi du roman d'apprentissage, car Diégane va découvrir des choses de lui à travers la personne et le parcours de T.C. Eliman, l'écrivain fantôme. C'est son frère en littérature, son alter ego. Ils ont en effet bien des points en commun. Et notamment, cette richesse, la double culture sénégalaise et française. Quand Diégane Faye évoque la double appartenance des écrivains africains francophones, il le fait parfois avec humour et il moque leur situation bancale, parfois inconfortable avec le diktat de l'assignation à résidence culturelle et les clichés et les modes qui en découlent, comme l'illustre ce petit passage où le narrateur rapporte les conversations du cercle des écrivains africains qui vivent à Paris. Nous avions ensuite longuement commenté les ambiguïtés parfois confortables, souvent humiliantes, de notre situation d'écrivain africain ou d'origine africaine dans le champ littéraire français. Un peu injustement, et parce qu'ils étaient des cibles évidentes et faciles, nous accablions alors nos aînés, les auteurs africains des générations précédentes. Nous les tenions pour responsables du mal qui nous frappait. Le sentiment d'être incapable ou de n'avoir pas le droit, c'était pareil, de dire d'où nous venions. Puis nous les accusions de s'être laissés enfermer dans le regard des autres, regard guépié, regard filé, regard marécage, regard guet-apens, qui exigeait d'eux à la fois qu'ils fussent authentiques, c'est-à-dire différents, et pourtant similaires, c'est-à-dire compréhensibles, autrement dit encore, commercialisables dans l'environnement occidental où ils évoluaient. Notre lancée critique était bonne, c'est-à-dire impitoyable, et nous ne devions pas nous arrêter en si bon chemin. Donc, nous déplorions que certains d'entre nos anciens aient versé dans les nègreries de l'exotisme complaisant, et d'autres dans les autofictions où ils n'arrivaient pas à transcender leur petite existence, eux consommés d'être africains, mais de ne l'être pas trop, et qui, pour obéir à ces deux impératifs aussi absurdes l'un que l'autre, oubliaient d'être écrivains. Derrière l'auto-dérision, on sent chez Diegan une attitude ambivalente par rapport à sa culture d'origine. On perçoit chez lui une aspiration à la non-assignation identitaire ou culturelle, une aspiration à un idéal d'universalité, idéal d'universalité comme on le voit dans ce passage. À propos de ses débuts en littérature, Diegan évoque la publication d'un premier livre. Il m'avait fallu attendre 4 ou 5 mois après sa publication pour qu'on le tirât du purgatoire de l'anonymat. Un journaliste influent, spécialiste des littératures dites francophones, l'avait chroniqué en 1200 caractères espace compris dans Le Monde, Afrique. Il émettait quelques réserves sur mon style, mais sa dernière phrase m'avait accolé la locution redoutable, voire dangereuse, diabolique même, de « promesse à suivre de la littérature africaine francophone ». J'avais certes échappé à la terrible et mortelle « étoile montante », mais sa louange n'en demeurait pas moins assassine. Elle suffit, par conséquent, à me valoir une certaine attention dans le milieu littéraire de la diaspora africaine de Paris, le ghetto, comme l'appelaient avec affection certaines langues de pute, dont la mienne. L'écrivaine sénégalaise reconnue, Marem Sigadé, elle a cette même aspiration à un idéal d'universalité quand elle dit qu'elle a fait allégeance à sa patrie. Je vous lis ce petit passage où elle parle de sa patrie. Quelle est donc cette patrie? Tu la connais? C'est évidemment la patrie des livres. Oui, disais-je, oui, je serai citoyenne de cette patrie-là. Je ferai allégeance à ce royaume, le royaume de la bibliothèque. À propos de la double appartenance d'individus scindés, on peut peut-être voir une métaphore de la double identité de l'écrivain africain francophone dans la gémellité d'Hassan et d'Ousseynou Koumak. Les jumeaux Hassan et Ousseynou Koumak sont le père et l'oncle de Tessé Elimane. Dès l'enfance, Ousseynou est destiné à cultiver et protéger la culture séraire et il deviendra guérisseur et devin. Hassan, le plus audacieux, est voué, lui, à acquérir la culture occidentale des colonisateurs. Et il fréquentera l'école des Toubabs, l'école des Blancs. Voici un petit passage, comme un petit écho du temps de la colonisation. Il était l'un des premiers au village à aller à l'école des Blancs dans la grande ville. Lorsqu'il revenait, il était l'attraction. Il racontait la ville, il décrivait les Blancs et leurs habitudes. Il évoquait leurs savoirs et leurs secrets merveilleux. Il cultiva l'élégance, la coquetterie, l'éloquence. Il parlait notre langue en y introduisant quelques mots de français. Il donnait à ce qu'il disait, même quand c'était insignifiant, une aura d'importance. Cela fascinait les autres. Hassan était déjà un enfant doué et curieux. L'école française en fit un adolescent et un jeune homme instruit, cultivé, sûr de lui. Mais d'abord, l'école française, c'était sa mission après tout, en fit un petit noir blanc. Un petit noir blanc. On entend bien l'écho du temps de la colonisation dans ces mots. La plus secrète mémoire des hommes, c'est un éloge de la littérature. Un roman foisonnant qui affirme l'aspiration des hommes à la liberté, à un idéal d'universalité. Et c'est en même temps un chant d'amour à la terre africaine et à la culture originelle. Je vous lis un dernier passage, un dernier extrait, qui est situé au début du livre. Au moment de la rencontre entre Diégane le narrateur et Barem Sigadé, l'écrivaine sénégalaise qui lui donnera le labyrinthe de l'Unima. Ils se retrouvent tous les deux dans une chambre d'hôtel. Il s'écoula ces longues minutes au cours desquelles, après leur douche, certaines femmes font mille choses qui semblent de la plus haute importance sans qu'on sache exactement quoi. Elle finit par s'asseoir sur un fauteuil devant moi, toujours couverte de sa seule serviette. Celle-ci remonta, je vis le haut de ses cuisses, puis ses hanches, et enfin le tertre du pubis. Je ne cherchais pas à détourner le regard et fixer un instant sa toison. Je cherchais son œil. Elle croisa les jambes, et le souvenir de Sharon Stone pâlit tout d'un coup dans ma mémoire. « Je parie que tu es écrivain. » ou apprenti écrivain. Ne t'étonne pas, j'ai appris à reconnaître les gens de ton espèce au premier coup d'œil. Ils regardent les choses comme s'il y avait derrière chacune d'elles un profond secret. Ils voient un sexe de femme et le contemplent comme s'il renfermait la clé de leur mystère. Ils esthétisent. Mais une chatte n'est qu'une chatte. Il n'y a pas à baver votre lyrisme ou votre mystique en y noyant vos yeux. On ne peut pas vivre l'instant et l'écrire en même temps. Bien sûr que si, on peut, c'est ça, vivre en écrivain. Faire de tout moment de la vie un moment d'écriture, tout voir avec les yeux d'un écrivain et voilà ton erreur. Voilà l'erreur de tous les types comme toi. Vous croyez que la littérature corrige la vie ou la complète ou la remplace? C'est faux. Les écrivains, et j'en ai connu beaucoup, ont toujours été parmi les plus médiocres amants qu'il m'ait été donné de rencontrer. Tu sais pourquoi? Quand ils font l'amour, ils pensent déjà à la scène que cette expérience deviendra. Chacune de leurs caresses est gâchée par ce que leur imagination en fait ou en fera. Chacun de leurs coups de rein affaibli par une phrase. Lorsque je leur parle pendant l'amour, j'entends presque leur « murmura-t-elle ». Ils vivent dans des chapitres. Un tiré de dialogue précède leurs paroles. Les écrivains comme toi sont pris dans leur fiction. Vous êtes des narrateurs permanents. C'est la vie qui compte. L'œuvre ne vient qu'après. Les deux ne se confondent pas. Jamais. Merci pour votre écoute et à un prochain livre.